La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper, comme des mouches, quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Les arts grecs et romains qui accompagnent la naissance de la civilisation occidentale sont le plus souvent pour les historiens d'art le souvenir émerveillé, mais parfois lointain, des premières années de leurs études. Et les nuances du canon esthétique très rigoureux qui définissait l'art grec me rappellent les mélanges qui se faisaient dans nos têtes d'étudiants quand ils tournoyaient les noms de Scopas, Lysis, et bien sûr Phidias ou Apelle, et bien d'autres. Ce sont au fond plus les mythes que les nomenclatures stylistiques que nous en retenions. Or, alors que tout cela aurait pu me paraître bien loin, tout à la fois acquis et oublié en quelque sorte, je suis tombé pendant cette période méditative que nous traversons, alors que j'étais frustré, comme vous tous, de mes visites dans les salles des musées, sur deux sites. L'un comme l'autre animés par la passion et qui ensemble ont invité Ludovic Laugier, le conservateur en charge des sculptures grecques au Louvre, à commenter certains chefs-d'œuvre de la collection. Les voici, je les recommande, le scribe accroupi qui est tenu depuis 2015 par un passionné anonyme et qui nous fait visiter avec de courts reportages visuels et sonores les grandes expositions à Chantilly, au Louvre ou à Versailles ou à Fontainebleau, accompagné en général par de très bons spécialistes et c'est passionnant. Et un autre, Coupe-fil Art, qui est un magazine virtuel tenu par des étudiants et anciens étudiants de l'école du Louvre et qui réunit lui aussi articles, recherches et web-séries sur nos passions. Ludovic Laugier, juvénile et savant conservateur, vous le découvrirez sur ses sites, reconnaissable à une double mèche poivre et sel devenue célèbre dans notre milieu parce que semblable à la célèbre Anastole ou Anastolée, comme disent les Grecs, ainsi qu'on appelait la houppe d'Alexandre, coiffure que seul le sculpteur Léocarès avait le droit de représenter. Ludovic Laugier donc qui est mon invité aujourd'hui et qui sur ses sites évoque dans des séquences d'une vingtaine de minutes les grands sculpteurs, Praxitèle, Chrysilas et des grands thèmes comme Aphrodite ou Héraclès représentés dans nos collections ou encore, et encore récemment, les Trois Grâces dans le cadre de l'exposition sur la Renaissance qui inspirèrent Raphaël, Canova, Maillol et beaucoup d'autres. Bonjour Ludovic Laugier, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
C'est quoi cette Anastolée dont on vient de parler à votre propos ?
C'est surtout la coiffure d'Alexandre le Grand qui était reconnaissable à cette épis de mèches abondantes au sommet du front. Et alors on a longtemps pensé que c'est toujours la confusion avec l'art grec, que l'art grec ça reproduit une forme de réalité. Donc on a pensé que bien sûr Alexandre le Grand était pourvu de cette forme de crinière, mais c'est peut-être un petit peu autrement qu'il faut voir les choses, parce que quand on lit Aristote par exemple, on sait que les caractères sont décrits par comparaison avec ceux des animaux. Or, évidemment, la crinière, c'est le lion, et le lion, c'est le symbole de la puissance, de la force. Donc peut-être que cette anastolée et cette chevelure léonine qui est celle d'Alexandre le Grand sur ses portraits, c'est tout simplement un code pour dire que le conquérant est fort, vigoureux, victorieux. Donc,
alors ça, c'est un point très intéressant que vous soulevez, et d'ailleurs vous y revenez parfois dans la web-série que vous avez fait avec le scribe accroupi et comment s'appelle l'autre déjà que j'aime beaucoup,
Coupe-fil-art.
Et Coupe-fil-art, voilà. Et c'est cette question de la réalité de la représentation. Et à un moment donné, vous dites mais il n'y a aucun problème technique, tout ça est maîtrisé dès le 6e siècle, et vous parlez de Chrysilas à ce moment-là, mais lorsque l'on représente Périclès, par exemple, alors qu'on pourrait le représenter avec réalisme, ce n'est pas le réalisme qui domine, c'est un visage canonique, si je puis dire. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je veux dire par là que que l'art grec est fait de codes. Bien sûr que les sculpteurs grecs se sont beaucoup appliqués à comprendre l'anatomie, le détail des muscles, de la peau, des tendons. Bon, tout ça, ils le savaient très bien depuis au moins la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ils s'adressent à un public, et ce que les artistes veulent montrer, c'est une image idéale la plupart du temps, ou en tout cas qui paraît parfaite. Donc le portrait de Périclès, ce sont des codes très simples. On nous dit qu'il est d'âge mûr, donc il est barbu. Sinon, il serait imberbe si c'était un éphèbe. Et comme il était stratège, c'était la magistrature qui lui permettait d'exercer le pouvoir à Athènes, eh bien, il a un casque sur la tête. Mais pour le reste, ses traits sont ceux pratiquement d'une divinité. Ils sont entièrement idéalisés. Donc, c'est un portrait rôle, si vous voulez. Mais ça, les Grecs le comprenaient très bien et ils pouvaient décoder l'image et après, ils lisaient l'inscription sur la base qui disait Périclès, fils de Xanthippos, et c'est ce qui donnait véritablement son identité à la statue.
Alors on commence par quelque chose d'un petit peu rare, qui est la représentation d'un personnage. À l'époque, on est quoi ? On est au 5e siècle, n'est-ce pas ?
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, oui.
Et qui n'est pas un dieu.
Non, qui n'est pas un dieu.
Alors, c'est rare, non ?
C'est assez rare à cette époque-là, ce sera beaucoup plus fréquent à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au siècle suivant. Mais Périclès a occuper une telle place dans les affaires de la cité à Athènes et dans tout le monde grec, puisque Athènes exerçait alors son hégémonie sur le monde grec, qu'on a voulu l'honorer d'une statue juste après sa mort. Donc c'est une statue post-mortem qui a été commandée manifestement juste après la mort du stratège en 429 avant Jésus-Christ pour être installée sur l'acropole d'Athènes.
Et dites-moi, mais c'est son fils, ce sont les citoyens, comment ça s'est fait ?
Alors, malheureusement, on ne connaît pas les circonstances exactes de la commande. On sait simplement qu'elle était sur l'acropole parce que c'est là qu'elle est décrite par Pausanias à l'époque romaine. Il est vraisemblable que ce soit une décision conjointe de la famille et du corps des citoyens.
Cette tête de Périclès que dont nous parlons, c'est une tête en marbre. Mais est-ce que c'est un fragment d'un personnage qui d'abord était représenté en bronze ? Comment est-ce que c'était ?
Ça c'est toute la question parce que aujourd'hui, malheureusement, nous connaissons l'art grec le plus souvent, en tout cas dans de nombreux cas, par le biais de copies d'époque romaine, les originaux. En bronze, ont disparu à la fin de l'Antiquité. Ils ont été fondus en raison de la valeur monétaire du bronze lui-même. Et ce qui nous sauve, c'est que les Romains aimaient tellement l'art grec, pour différentes raisons, pour décorer leur villa, leur jardin public ou des places publiques, qu'ils en ont fait faire des copies en marbre, mais qui sont souvent des copies parcellaires. Pour les Grecs, le corps valait autant que le visage, donc c'était toujours des portraits en pied, de la tête aux pieds. Les Romains, eux, ont inventé
le buste,
le format du buste ou du pilier en herme, vous savez, sur un pilier quadrangulaire. Et aujourd'hui, on connaît 4 copies romaines, 2 sont à Rome, et les 2 autres sont à Londres et à Berlin. Et c'est par le biais de ces copies qu'on a retrouvées en Italie, qui ont été faites bien après, qu'on se fait une idée du portrait de Périclès.
Alors le portrait de Périclès, pour les auditeurs, je pense que beaucoup d'éditeurs le connaissent peut-être sans le savoir, le portrait de Périclès par Crésilas, hein, puisqu'il est apparu sur des centaines de cahiers d'étudiants, des cahiers d'école, il me semble, n'est-ce pas ?
Bien sûr, c'est une image qui...
Vous pouvez nous le décrire ?
Considérable.
À nouveau, vous l'avez commencé, redites-le. Parce que ce casque qu'il a sur la tête, et qui protégeait, dites-vous, dans la série, dans la web-série, une tête d'oignon, c'est un casque corinthien, c'est cela ?
Oui, c'est un casque corinthien, c'est-à-dire un casque à protège-joue rigide. C'est le casque que tout le monde connaît le mieux, parce que c'est celui qui est le plus souvent représenté dans l'art grec. Donc là, c'est le signe de sa fonction, hein, en tant que magistrat particulier, en tant que stratège. Le casque est relevé sur sa tête, et lui-même a la tête légèrement tournée sur le côté, et il porte cette barbe qui dit que c'est un homme d'âge mûr, un homme accompli.
Et ce fameux nez grec, c'est une plaisanterie, non ?
Bien sûr que c'est une plaisanterie. Les Grecs n'avaient absolument pas tous le nez droit. Encore une fois, c'est cette idée de l'idéalisation de la réalité, c'est-à-dire que tous les traits sont dessinées de manière régulière pour donner l'apparence de la perfection. Mais dans la vraie vie, quand on se promenait à Athènes, on ne croisait pas des gens qui auraient tous eu un nez interchangeable d'une rectitude parfaite. Vous voyez ? En revanche, il y a une petite anecdote, vous avez parlé de tête d'oignon. Alors, Périclès était réputé pour son aura, pour son charisme à l'Assemblée, mais on se moquait aussi un peu de son physique, parce qu'il avait le crâne très développé, donc on disait qu'il était skinocéphalos, autrement dit qu'il avait une tête d'oignon. Et sur la réplique de Berlin, mais sur celle-ci seulement, donc on ne sait pas si c'est une lubie du copiste romain ou un trait propre à l'original grec que nous ne connaissons plus, on voit les cheveux très hauts dans les trous des yeux du casque. Alors on s'est demandé si ce n'est pas justement une façon discrète de faire référence à cette skinocéphalie de Périclès, Périclès l'Olympien pour certains et tête d'oignon pour d'autres.
Alors, puisqu'on parle de Cressilas, il y a une autre sculpture très très importante, une grande Athéna, la Pallas Velletri, que vous avez restaurée récemment, oui. Qui est aussi une sculpture impressionnante et extrêmement sévère, je trouve.
Oui, c'est une grande statue qui a été découverte à Velletri, à côté de Rome, en 1797, et qui a été restaurée à l'époque par Vincenzo Pacchetti, qui était un grand sculpteur néoclassique. Napoléon s'est passionné pour cette statue et a fait en sorte de l'acquérir. Donc il est venu la voir en 1803 au Louvre avec Joséphine, il ne le faisait pas si fréquemment, c'est dire à quel point il s'y intéressait. C'est une copie romaine aussi, complète cette fois-ci, de la tête aux pieds, colossale, plus de 3 mètres de hauteur, très classique, presque austère, mais ça correspondait bien au goût du début du 19e siècle. Et d'ailleurs tant est si bien que quand on a édité le code civil, on a choisi cette silhouette pour la médaille commémorant la publication du code civil. C'était une façon de parler un peu de cette France sage comme Athéna, mais en armes comme Athéna aussi.
Ah oui, c'est ça. Alors, vous pensez que Napoléon, c'est à la fois, il trouvait à la fois la sagesse et la force en fait, c'est ça ?
Il me semble bien. Et nous sommes au tout début de l'Empire. On peut encore espérer qu'il s'agira d'un régime éclairé. La suite, on pourrait en débattre, notamment pour les années 1813-1814, mais c'est une autre affaire. C'est ce régime naissant qui voit toutes les portes ouvertes devant lui et qui se veut fort et sage, si vous voulez.
Pourquoi est-ce que cette Athéna est une copie en marbre d'un bronze ? Pourquoi est-ce que les sculpteurs grecs commençaient par le bronze, si je vous suis ?
Alors, ça dépendait. Certains artistes travaillaient aussi bien le bronze que le marbre. C'était le cas notamment de Praxitèle, dont on reparlera tout à l'heure. Mais certains étaient principalement des bronziers, comme Lysippe, et vraisemblablement comme Cressilas, qui était un artiste du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui venait de Crète, mais qui travaillait beaucoup à Athènes.
Mais je pensais que c'était presque un art d'ingénieur de faire des œuvres en bronze de cette taille-là.
Alors, il y avait un atelier qui travaillait, c'est-à-dire que l'artiste faisait un modèle en argile qu'on moulait, et puis après il contrôlait la fonte, et tout l'intérêt de ces fontes, c'est que comme elles étaient creuses, elles permettaient plus de liberté. C'est un matériau, dans un sens, on a du mal à le penser aujourd'hui parce que c'est du métal, et que qui dit métal dit poids, mais c'était un matériau plus souple, qui permettait plus de liberté pour la position des bras, pour l'attitude de la figure en général. Donc Cressilas aurait fait son Athéna en bronze, et c'est seulement à l'époque romaine qu'on l'a copié, plusieurs fois d'ailleurs, et nous en sommes certains parce que on a retrouvé un atelier de copistes dans la baie de Naples, à Baïa, et les moules en plâtre qu'utilisaient les copistes pour passer du bronze au marbre par cette étape intermédiaire. Ah. Et on a retrouvé des fragments tout à fait conforme aux détails de la statue dont nous parlons, c'est-à-dire la Pallas de Velletri. Donc, on sait que à Baïa, dans la baie de Naples, on a fait des copies moulées sur un bronze, et on le reconnaît à un certain nombre de détails techniques visibles dans l'empreinte en plâtre, si vous voulez. On fait des copies en marbre de cet original en bronze.
Et dites-moi, quand un artiste, peut-être que vous trouverez que le mot n'est pas juste, hein, le mot artiste. Mais quand un artiste reçoit une commande, c'est une commande avec des obligations très précises sur le symbolisme, le caractère religieux, le caractère mystique quasiment de l'œuvre.
Naturellement. Alors, je réponds dans un sens à deux questions que vous posez en une. Artiste, c'est un terme moderne qui, chez nous, historiens de l'art, est très lié au vide Vasari, à la manière dont on a pratiquement mystifié les carrières d'artistes à la Renaissance.
Mais ils signaient pourtant, non, quelques-uns d'entre eux en Grèce.
Mais pendant l'Antiquité, on les appelait des technites, c'est-à-dire des techniciens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce basculement entre cette notion fondamentale d'artisan, de technicien, et l'apparition de la figure de l'artiste. Parce qu'effectivement, c'est bien ce que vous dites, à partir du VIe siècle, ponctuellement, on voit des artistes signer, ce qui veut bien dire qu'ils revendiquent leur propre personnalité d'artiste. Donc, même si la loi générale, ou plutôt l'idée générale pendant l'Antiquité grecque, c'est qu'il s'agit d'artisans, de praticiens. Évidemment, la figure de l'artiste s'impose progressivement au 5e, puis au 4e siècle avant Jésus-Christ.
Alors, écoutons, Ludovic, juste pour voir si on pense toujours de la même façon qu'il y a une cinquantaine d'années, écoutons un texte de Malraux sur les dieux sous forme humaine. Écoutons-le.
La Grèce ne détient nullement le monopole de concevoir des dieux sous forme humaine. Ils émergent d'un rayonnant folklore de sirènes. Et malgré la tradition, ce n'est pas l'homme qu'elle a magnifié d'abord sur les vases du VIe siècle. Les rêves et l'art d'Athènes sont peuplés de centaures. Et son premier sourire complexe apparaît à l'Acropole sur le visage d'un sphinx. Sans doute le sentiment qu'éprouvait Sophocle lorsqu'il apportait une offrande à l'Athéna Parthénos a-t-il disparu pour toujours? Du moins connaissons-nous le vaste domaine de mythes dont se dégagent les dieux. Nous ne confondons plus ces mythes avec des biographies divines, bien que le christianisme se fonde sur celle de Jésus, ni les dieux avec leurs images. Nous savons que Pallas, Athénée, Aphrodite n'étaient pas plus des femmes que la France, que les dieux personnifiaient les puissances que l'homme ne gouverne pas dans l'univers et en lui-même. Leur existence ne paraissait pas moins évidente à chacun que celle de la libido à Freud, qui ressuscite Aphrodite. Les Athéniens cultivés ne croyaient pas à cette existence comme un chrétien à celle du Christ, mais parfois comme un chrétien croit à celle du diable. Ils la reconnaissaient en eux-mêmes. Tel Dieu les habitait comme les péchés, comme les forces de l'esprit, comme les pulsions de la psychanalyse. Ils habitaient de la même façon l'univers et l'habiteront jusqu'à la fin du monde antique. César, grand pontife athée, ménagera les troubles forces que n'ordonne plus le sacré et que ne peut ordonner la pensée.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Nous venons d'entendre un texte sur l'art antique de Malraux et je suis avec Ludovic Logier, conservateur des antiquités grecques au Musée du Louvre et qui a fait une série magnifique, une web-série, puisqu'on n'a plus de droit qu'à ça en ce moment, magnifique, avec le Scribe accoupli et Coupe-fil art. Et c'est l'occasion pour nous de parler de tout cela. Et Ludovic, lorsqu'on entend ce texte de Malraux, on a l'impression que les Grecs, ce qu'ils laissent entendre, la croyance des Grecs est dirigée vers des pulsions du monde plutôt que vers des entités. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le texte de Malraux s'inscrit dans toute une tradition qui consiste à essayer de bien comprendre la religion grecque. On pourrait citer aussi les travaux de Vernant, bien sûr, ou de Vane, mais c'est intéressant parce que c'est toujours la difficulté de ne pas confondre la religion chrétienne et la religion païenne, de ne pas regarder l'une avec nos lunettes de moderne. Les Grecs croyaient à un ensemble de dieux, ils ne s'attachaient pas forcément à une divinité, et ils y voyaient l'ordre du monde, l'ordre du cosmos, les forces en puissance et en action. Ce qui les intéressait, c'était le rite. Vous savez, la religion grecque, ce n'est pas une religion du livre, ce n'est pas une religion de la révélation. C'est une religion du rite et de la pratique. Donc il croyait à la connexion avec les forces du cosmos par les rites, par le sacrifice qui nourrit les dieux. D'ailleurs, dans le monde grec, on l'oublie souvent, le temple est complètement accessoire. Aujourd'hui, on regarde les temples parce que c'est ce qui est le plus monumental, c'est ce qui est le plus beau, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'amateurs d'art, si vous voulez. Mais pour les Grecs, ce qui est important, c'est l'autel, A-U-T-E-L, bien sûr, c'est l'autel du sacrifice. On sacrifie aux dieux et on brûle le sacrifice sur l'autel pour nourrir les dieux. Et d'ailleurs, quand les chrétiens ont voulu abolir le paganisme, ils ont tout simplement interdit les sacrifices. Et si vous voulez, les dieux sont morts de faim. Et je crois que c'est cette question de la pratique qui est importante, la pratique qui met en accord avec les lois du cosmos. Alors après, les Grecs aiment discuter de la personnalité de telle ou telle divinité, mais c'est de l'ordre de la conversation. Ils ont une forme de distance critique. Ils savent bien qu'Athéna n'est pas une personne, pas plus que Dionysos, mais c'est une façon de parler de ces concepts. Et selon son degré d'éducation, son degré de culture dans la société grecque, bien sûr, on envisageait ces choses de manière très différente.
Alors, Excusez-moi.
Moi, j'aurais tendance à renvoyer à Marguerite Yourcenar. Oui. Quand elle fait parler Adrien. Alors, évidemment, elle invente, mais c'est quand elle fait dire à Adrien son rapport au dieu et justement au polythéisme que le roman devient passionnant dans ces pages-là, parce que Adrien a beaucoup de recul. Adrien ne croit pas aux dieux un par un comme à des entités, mais il comprend que c'est un ensemble qui permet de comprendre le monde, et c'est un ensemble de divinités qui est aussi garant de l'ordre social. Et il se méfie du coup du monothéisme en disant quand on commence à croire à un seul dieu, c'est à l'exclusion de tous les autres, et ça c'est très dangereux. Parce que dans le polythéisme, notamment chez les Romains, on peut toujours ajouter un dieu et s'entendre avec tout le monde. C'est ce qu'ont fait les Romains pendant des siècles en incorporant de nouveaux territoires et de nouvelles divinités.
Alors, il y a une déesse à laquelle vous croyez. En tout cas, on le ressent dans la web-série que vous avez fait avec Scribe à Coupi et Coupe Fil Art. C'est Aphrodite, vous en parlez longuement. Et vous parlez d'Aphrodite, justement, aussi comme un contexte générique qui dépasse très largement la sensation que l'on a en face d'une belle femme représentée en sculpture.
Bien sûr, parce que aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très teintés par la littérature moderne et notamment par celle du 19e siècle dans notre appréhension de l'œuvre, mais enfin de la déesse et des œuvres qui l'incarnent. Mais pour les Grecs, c'est un concept, c'est la fertilité, c'est le cycle des générations, c'est une divinité primordiale. Soit c'est la fille de Zeus et de Dionée, bon, dans un sens c'est assez banal pour les anciens, soit c'est littéralement la déesse née de l'émasculation de d'Ouranos par Cronos, donc une divinité des temps primordiaux qui suscite les amours des dieux peut-être, les amours des héros sans doute, la guerre de Troie pourquoi pas, mais qui suscite le cycle de la vie, c'est-à-dire les accouplements aussi bien des animaux que des êtres humains. Donc la révérence envers ce principe fondamental est très forte chez les Grecs. Alors quand ils regardent une statue d'Aphrodite entièrement dénudée, ce n'est pas juste une galanterie. Vous voyez, c'est montrer les seins ou les fesses d'Aphrodite, c'est montrer les attributs par lesquels elle exerce sa puissance divine qui garantit le cycle de la vie. Donc on parle du frisson mystique de ceux qui allaient à Cnide et qui voyaient la déesse faite par Praxitèle entièrement nue comme une manifestation essentielle de sa puissance.
Je trouve que c'est extrêmement beau de vous entendre là-dessus parce que ça élargit et ça donne une puissance très forte comme ça à la foi. On en ressent le caractère générique pour l'histoire de l'humanité et quand je vous entends, on sent aussi le caractère très archaïque au fond du concept archaïque au sens primordial du concept d'Aphrodite.
Exactement. C'est simplement à partir de l'époque romaine qu'on a regardé ces statues avec un esprit plus grivois, et c'est la poésie de Lucien, par exemple, ou d'autres auteurs de son époque.
Ou les peintures, les peintures galantes de Boucher ou Fragonard.
Exactement, qui en font un sujet érotique, mais pour les Grecs, initialement, c'est un sujet très sérieux.
Alors il y a un texte assez curieux, je souhaite qu'on l'écoute. C'est un texte du pseudo-Orphée, on ne sait pas très bien qui c'est le pseudo-Orphée, c'est probablement 5e siècle, mais enfin il a un caractère mystique, ça serait intéressant qu'on l'écoute, vous me direz ce que vous en pensez, Ludovic.
Ouranienne, célébrée par mille hymnes. Aphrodite qui aime les sourires, née de l'écume, déesse génératrice, qui te plaît dans la nuit noire, vénérable, nocturne, qui unit pleine de ruses, mère de la nécessité, toutes les choses sortent de toi, car tu as soumis le cosmos et tout ce qui est dans l'Ouranos et dans la mer profonde et sur la terre fertile. Ô vénérable conseillère de Bacchos, qui te réjouis des couronnes et des noces, mère des Héros, qui aime les lits nuptiaux, qui accorde en secret la grâce, visible et invisible, aux beaux cheveux. Louve, porte-spectre des dieux, génératrice qui aime les hommes, très désirable, dispensatrice de la vie, qui unit les vivants par des nécessités invincibles et qui saisit, à l'aide de tes charmes, d'un désir furieux, la race innombrable des bêtes sauvages. Viens, déesse née dans Kypros, sois-nous favorable, belle reine, soit que tu souris dans l'Olympe, soit que tu parcours tes demeures dans la Syrie qui abonde en encens, soit que, sur les hauteurs qui dominent l'onde marine, tu te réjouisses des danses circulaires des hommes, ou que tu te plaises sur la terre divine et dans ton char rapide, au milieu des nymphes, aux yeux bleus, le long des sables du rivage. Ô, bienheureuse, viens. Ô, belle et très désirable déesse, je t'invoque avec un cœur innocent et par des paroles sacrées.
Vous êtes sur France Culture, je suis avec le conservateur des antiquités grecques au musée du Louvre, Ludovic Laugier, et nous parlons d'Aphrodite, et on entend, n'est-ce pas Ludovic, dans cette prière au fond du pseudo-Orphée, la sacralité, la vraie sacralité, je crois, je ressens en tout cas, de l'Aphrodite, qui au Louvre est représentée par une Aphrodite célèbre, non? C'est l'Aphrodite de Cnide.
Oui, alors nous en conservons plusieurs répliques. Encore une fois, l'original de Praxitèle a disparu. Cette fois-ci, c'était un original en marbre. Et Praxitèle s'entourait toujours de collaborateurs pour peindre ses statues, et plus particulièrement du peintre Nicias, qui était un grand peintre de peinture sur chevalet. Donc l'original, malheureusement, on ne le connaît plus. Mais au Louvre, nous conservons un très beau corps d'Aphrodite de Cnide, mais aussi une très belle tête d'Aphrodite qu'on appelle la tête Kaufmann. Et en mettant à côté cette tête et ce corps, on peut se faire une idée de l'original de Praxitèle.
La tête Kaufmann, sincèrement, elle est d'une sensualité, la bouche à peine ouverte, les lèvres gonflées, le regard humide, c'est une tête d'une beauté incroyable. On le sait depuis toujours que c'est le modèle original. Je ne savais pas que c'était un chef-d'œuvre, je ne me souvenais pas de l'avoir vu.
C'est une tête qui a connu une grande célébrité à la fin du 19e siècle. Et on a tout de suite pensé que c'était le reflet de l'Aphrodite de Cnide, avec quelques variantes. Le visage est un peu plus fin, la coiffure n'est pas tout à fait celle qu'on voit sur d'autres copies romaines qui sont conservées notamment au Vatican. C'est donc une copie à main levée, mais c'est peut-être justement ça qui lui confère toute sa grâce. Ce qui en fait la qualité, c'est que ça n'est pas une copie tout à fait mécanique, vous voyez, faite avec un processus de mise au point dans un atelier de praticien un peu besogneux. Là, le copiste s'est presque fait artiste, si vous voulez. Et parfois, les copies à main levée sont les plus belles, à défaut d'être les plus fidèles. En tout état de cause, on voit bien le projet artistique de Praxitèle, parce que avec l'Aphrodite de Cnide, Praxitèle invente le nu féminin dans la sculpture occidentale. Ça n'existe pas avant. sur quelques vases, oui, peut-être un ou deux reliefs, mais en ronde-bosse, comme on dit en sculpture, c'est le premier nu de l'art occidental pour représenter justement Aphrodite dans toute sa puissance divine, puisqu'elle nous montre ses attributs dénudés, ce qui fait sa force, et on la montre au bain. C'est-à-dire qu'elle avait un vase à eau à côté d'elle, qu'on appelle une hydrie. En fait, on la saisit, on la voit au moment où elle entre, où elle sort, d'ailleurs, il y a une ambiguïté, du bain qui lui permet de régénérer la puissance évocatrice de ce corps qui lui permet d'exercer son empire et d'assurer le cycle des générations.
Mais ça a dû impressionner, non? Parce que la nudité à cette époque-là d'un dieu, c'était pas comme la nudité d'un héros, c'était probablement une expression, comment dirais-je, de pouvoir, effectivement, comme vous le disiez, de puissance.
Bien sûr, c'est banal pour les divinités masculines comme pour les héros. Zeus peut être représenté nu, Arès, bien sûr. Mais pour les divinités féminines, c'était beaucoup plus rare. Et là, Praxitèle a eu toutes les audaces. Alors tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs de la commande. Et je n'avais pas tout à fait répondu à cette question. Généralement, les artistes répondaient à des commandes très précises. Telle divinité devait arborer tel attribut. Et d'ailleurs, les attributs changeaient parfois d'une cité à l'autre. Donc, la commande était très formelle. Or, ce que nous racontent les textes à propos de l'Aphrodite de Cnide de Pausanias, qui sont peut-être des textes plus ou moins fidèles, c'est que il avait décidé, lui, de faire dans son atelier deux Aphrodites, une Aphrodite vêtue et une Aphrodite entièrement dénudée. Et dans son atelier sont venus d'abord les gens de la cité de Kos, qui par conservatisme religieux ou par pudeur, on ne sait pas, ont choisi l'Aphrodite vêtue, et restée libre, vacante, l'Aphrodite entièrement dénudée. Ce sont les gens de la cité de Cnide qui sont passés les seconds, mais bien inspirés d'arriver les derniers. Ils ont évidemment choisi par défaut celle qui restait, et c'est ce qui a assuré en bonne partie la célébrité de leur cité par la suite, parce que tout le monde venait à Cnide pour admirer cette statue extraordinaire et tellement évocatrice.
Mais vous pensez que c'était des pèlerins, c'est l'équivalent des pèlerins qui allaient la voir à Cnide? J'imagine, c'était une sorte de... Est-ce qu'elle était colorée? Est-ce qu'ils parlent de ce qu'ils ont ressenti? Est-ce que, à un moment donné, dans le site, quand je vous écoutais dans la web série, vous dites que le public ressentait un frisson sacré. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que c'est juste, vous croyez?
Je pense que ça dépend de la période. En fait, quand on parle de l'Antiquité, on en parle comme d'un tout. Mais imaginez que nous parlions d'un phénomène religieux ou culturel aujourd'hui en pensant que on pourrait dire la même chose du XVIe ou du XXIe siècle. C'est pareil pour l'Antiquité. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce sont des pèlerins qui vont à Cnide et eux ressentent ce frisson mystique. Les textes en parlent parce que, encore une fois, c'est l'épiphanie de la divinité dans la révélation de tous ses attributs les plus sacrés. Alors on la voyait colorée, peinte par Nicias, sculptée par Praxitèle, pardon, dans un temple particulier qui avait deux entrées, donc on pouvait la voir de dos et de face. Alors sur place, aujourd'hui, quand on va à Cnide, on a bien du mal à trouver ce temple. J'ai fait le voyage il y a 2 ou 3 ans, je crois. Alors on a d'abord cru qu'il s'agissait d'une tholos, c'est-à-dire d'un bâtiment circulaire. Et alors dans ce cas-là, on aurait pu pratiquement tourner tout autour de la statue, mais cette hypothèse avancée jadis par Iris Love, la bien nommée, une archéologue américaine. Iris Love avait pensé ça, mais aujourd'hui on ne croit plus à cette théorie.
C'est un nom de starlette, en effet.
Oui, dans le milieu, franchement, ça nous a toujours fait sympathiquement sourire, Iris Love. Mais donc aujourd'hui, on ne sait plus où se trouve, pour être franc, le temple de Cnide quand on est à Cnide, qui est un site magnifique. C'est un promontoire avec deux baies. Il y avait là deux ports. Enfin, c'est très très beau de découvrir Cnide. Mais si on avance dans le temps, à un moment donné, dans l'Antiquité, la religiosité se modifie, le rapport au statut aussi. Donc à l'époque romaine, par exemple, eh bien, ce sont des touristes qui vont à Cnide. Alors évidemment,
d'ailleurs, Pausanias, c'est quasiment un texte touristique. Hein.
Bien sûr, Pausanias au IIe siècle, c'est pratiquement le guide bleu de l'Antiquité. Pausanias visite les sites en se faisant expliquer les monuments et les statues par des guides. Il répète ce que disent des guides. et lui-même se fait guide quelque part, et c'est un guide que nous lisons. Mais donc, à l'époque romaine, au 1er siècle ou 2e siècle après Jésus-Christ, par exemple, les gens qui regardent les visiteurs, on pourrait les appeler des visiteurs plus que des pèlerins, même s'il y a sûrement dans la foule quelques croyants, quelques pèlerins, les visiteurs regardent la statue avec un regard plus profane, et donc ce qu'ils voient, c'est l'aspect grivois de cette nudité. Et il y a quelques textes aussi célèbres qui nous disent que l'un de ces visiteurs se serait laissé délibérément enfermer une nuit entière avec la statue, et que le lendemain matin, on aurait découvert sur la statue la trace de ses œuvres, pour vous dire les choses pudiquement. C'est ce qu'on appelle l'agalma philie, c'est-à-dire l'amour physique des statues.
Oui, mais donc il n'avait pas compris que c'était une Aphrodite spirituelle également.
Exactement.
Et peut-être on écoute un instant, parce que cela dit, pardon, Ludovic, je voulais vous faire écouter un texte de Xénophon, mais il y a quand même une légende derrière tout cela, qui est la légende de la plus belle femme du monde à l'époque, qui était la Phrynée, qui était la maîtresse de beaucoup de grands artistes, dont l'auteur de la Vénus de Cnide.
Phrynée, c'était une courtisane originaire de Béotie. On dit toujours que la Béotie, c'est la patrie des Béotiens qui ne seraient pas très malins. Évidemment, c'est une vue des modernes. La Béotie, c'était une région très importante du monde grec. Et donc, cette Phrynée venait de Thespie, en Béotie. Et elle s'était installée à Athènes, où elle jouait de la musique, où elle était courtisane. C'était la plus belle femme de la cité. Elle vendait très cher ses services. Et c'était devenu, entre autres, l'amante de Praxitèle, qui s'en est servi de modèle, pense-t-on, pour réaliser ces belles Aphrodites.
C'était un sacrilège?
C'était singulier. Et c'est pour ça que les auteurs anciens ont relevé la chose et l'ont commenté. Mais encore une fois, quelle était la part d'inspiration et la part de recul de l'artiste? Quand on regarde les copies romaines des œuvres Praxitèle, on voit encore une fois qu'elles sont très idéalisées. L'art grec part toujours d'une observation de la réalité et en tire autre chose en régularisant les traits d'un visage, en rendant parfaites les courbes d'un sein, d'une épaule. Quand on regarde l'Aphrodite de Cnide, ce qu'on voit, si on analyse de près le corps, c'est un rapport de nombres, c'est un rapport de lignes qui se répondent. Donc Phrynée peut être au départ de l'inspiration de Praxitèle, mais à l'arrivée, elle est un peu loin.
Cela dit, il y a je vois sous le, je pense à la naissance de son sein, à son épaule extraordinaire, au modelé de la chair qui est, on a presque l'impression que si on y met le doigt, il s'enfonce dans la souplesse de la pulpe. C'est extraordinaire comme rendu vivant, non?
C'est un équilibre. C'est à la fois ça, effectivement, la compression des chairs à l'aisselle du côté de la poitrine, c'est très beau. Et en même temps, toutes les proportions se répondent et la statue se tient dans une attitude qui vous paraît naturelle, mais qui ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle le contrapposto, l'inclinaison inverse des hanches et des épaules. Et ça, dans la vraie vie, c'est très inconfortable, par exemple.
Donc Phrynée ne se posait pas, ne se dressait pas en contrapposto. Appel, et aussi, je crois, avait demandé à Phrynée de poser pour la Vénus Anadiomède, la fameuse, ou c'est peut-être une légende aussi. Mais attendons de voir et écoutons un instant les deux Aphrodites, puisque peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu deux Aphrodites, selon Xénophon, écoutons-le.
N'y a-t-il qu'une seule Aphrodite, ou bien deux? L'Aphrodite Urania et l'Aphrodite Pandémos? Je l'ignore, car Zeus, qui sans doute est seul, a lui-même tant de noms. Mais ont-elles leurs autels et leurs temples distincts? Offre-t-on à l'Aphrodite Pandémos des sacrifices moins relevés et à l'Aphrodite Urania des offrandes plus chastes? C'est ce que je n'ignore point. Et l'on peut croire que l'Aphrodite Pandémos inspire les amours du corps, tandis que l'Aphrodite Urania des offrandes plus chastes. C'est ce que je n'ignore point. Et l'on peut croire que l'Aphrodite Pandémos inspire les amours du corps, tandis que l'Aphrodite Urania inspire l'union des âmes, l'amitié, les actes généreux.
Vous êtes sur France Culture et nous sommes avec Ludovic Laugier, conservateur au musée du Louvre des œuvres grecques. Et nous venons d'évoquer Aphrodite. Et il y a un autre personnage, Ludovic, que vous avez mis en évidence dans cette très belle web-série du Scribe accroupi et de Coupe-fil Art, c'est Héraclès. Et Héraclès, semble-t-il, vous le laissez entendre en tout cas, est finalement le héros le plus représenté. Et je me demandais pourquoi.
C'est probablement le héros le plus représenté dans l'art grec, notamment en céramique, sur les vases grecs, mais aussi dans la sculpture architecturale, parce que son histoire intéresse tout le monde, à différents titres, tout le monde dans le monde grec, bien sûr. D'une part, c'est un héros qui subjugue, qui vainc des monstres, et par là, il signifie l'ordonnancement du monde, c'est-à-dire que, bien sûr que le temps des héros, pour les Grecs, c'est un temps très ancien, et c'est le moment où la Terre est encore peuplée de créatures très dangereuses, comme l'hydre de Lerne, par exemple, comme le sanglier d'Érymanthe, etc. Et le héros qui vient à bout de toutes ces monstruosités, qui est donc quelque part un héros qui rend le monde plus sûr, c'est Héraclès. D'un autre côté, Héraclès le fait parce qu'il est bien obligé de le faire. C'est le fils de Zeus, mais évidemment d'amour adultérine. Et donc Héra, l'épouse de Zeus, l'a mal pris, comme toujours. Donc elle a puni le jeune Héraclès, mais très tôt d'ailleurs, hein, on jette des serpents dans son berceau, qu'il étouffe tout de suite, puisqu'il est de nature semi-divine, c'est un héros. Et puis quand il grandit, il se marie, il a des enfants, ce qu'on oublie un peu toujours, mais là aussi, Héra le poursuit, et elle le frappe de folie, et il tue Mégara, son épouse, et ses enfants. Et ça, hier comme aujourd'hui, c'est le crime le pire, le crime familial. Donc Héraclès doit faire ce que tout le monde fait dans cette circonstance. Il doit se rendre à Delphes, consulter la Pythie qui parle au nom d'Apollon, qui lui-même donne les avis de Zeus. Et qu'est-ce qu'on lui demande, c'est bien ingrat, de se mettre au service de son cousin Eurysthée, qui est pleutre, vil, lâche, faible, et qui a usurpé la couronne qui aurait dû revenir à Héraclès, à Argos. Donc en fait, le héros doit aller combattre tous ces monstres parce que Eurysthée lui demande de le faire, en espérant évidemment qu'Héraclès ne reviendra jamais. Mais évidemment, il revient toujours vainqueur. Et donc ça, pour les Grecs, évidemment, c'est une forme de storytelling attachante. Et puis, à la fin, Héraclès obtient son apothéose, il monte à l'Olympe. Alors, il faut faire attention parce que à l'époque moderne, on a parfois confondu justement l'histoire d'Héraclès avec la mystique chrétienne, en disant que voilà, il y avait une forme de rémission, de salut. Les anciens voyaient les choses différemment, mais en tout cas, c'est un héros qui traverse de nombreuses épreuves et à la fin se voit offrir l'apothéose par Zeus, pour vivre sur l'Olympe. Et évidemment, c'est ce qui fait un peu la célébrité du mythe, et c'est la raison pour laquelle on le représente beaucoup, notamment au temple d'Olympie.
Pour ma part, je dois dire que c'est pour les extraordinaires métopes qui ont été rassemblés au Louvre que je trouve qu'il mérite son apothéose. Il a été un sujet de l'art incroyable, et nous avons au Louvre une série fantastique sur les exploits d'Héraclès.
Oui, alors on le voit de deux manières. D'abord sur une série de vases magnifiques, des vases à figure noire, à figure rouge, qui montrent une multitude d'épisodes.
Je me souviens de Cerbère taquiné par Héraclès avec sa massue.
Oui, alors ça c'est amusant parce que on voit bien qu'il y a une forme de liberté chez les peintres de vases à Athènes. C'est un vase bilingue à figure noire et à figure rouge. Sur la face à figure rouge, c'est un des exploits les plus fameux d'Héraclès, puisqu'il doit vaincre le redoutable Cerbère. Et il s'agenouille devant lui et le taquine comme si la scène était presque légère. Donc là, on voit bien qu'il y a une distance de la part du peintre. Et on connaît aussi tout le cycle d'Héraclès par la frise, ou plutôt les frises doriques, qui décoraient le porche avant et le porche arrière du grand temple de Zeus à Olympie, qui était une des sept merveilles du monde antique.
Non pas pour est-ce que ce n'était pas pour la statue de Phidias que c'était une merveille du monde antique?
Et exactement, vous voyez où je veux en venir.
Ah, c'est ça, oui.
Ce qui rendait le temple très célèbre, c'était la statue faite par Phidias en or et en ivoire de Zeus olympien qui se trouvait à l'intérieur. Cette statue a disparu à Constantinople à l'époque byzantine. Ce que nous conservons aujourd'hui, ce sont les parures sculptées du bâtiment, et notamment ces frises doriques décorées de métopes. Les métopes, ce sont de grands rectangles en marbre, en haut relief. Et à Olympie, il y avait deux fois six métopes. Six métopes pour le porche avant sous la colonnade du temple, et six métopes pour le porche arrière, donc 12 métopes. Mais c'était une contrainte liée à l'architecture du bâtiment. Mais c'est ce chiffre de 12 qui est devenu canonique, étant donné la célébrité du temple de Zeus à Olympie. Mais les concepteurs de ce décor ont choisi. Comme je vous le disais, pour les vases, on connaît une multitude d'exploits. Et dans cette multitude, on a choisi 12 exploits qui ont canonisé le chiffre de 12 qu'aujourd'hui tout le monde connaît.
Mais comment ça se fait que la France ait pu recueillir ces chefs-d'œuvre absolus, un des plus grands trésors de l'histoire de la sculpture grecque?
Il faut retourner au XIXe siècle pour comprendre les circonstances de cette acquisition. La Grèce a combattu pour son indépendance, et d'ailleurs on en fête l'anniversaire cette année, face à l'Empire ottoman. Et bientôt, c'est tout le mouvement du philhellénisme qui traverse l'Europe occidentale. Les Britanniques, les Français et secondairement les Russes sont venus à l'aide des insurgés grecs. Donc c'est ce qu'on appelle l'expédition de Morée pour ce qui concerne l'armée française. Et lors de cette expédition, on a voulu renouveler ce qui avait été fait pour l'expédition d'Égypte. Organisé par Napoléon Bonaparte. Donc, les armées étaient accompagnées de zoologues, de botanistes, de géologues, d'architectes, d'historiens de l'art et d'archéologues. Parce qu'on voulait comprendre et connaître en même temps qu'on faisait la guerre, si vous voulez. Et donc, l'équipe des archéologues et des architectes a fouillé à Olympie. Le site était repéré depuis de nombreuses années, largement depuis le XVIIIe siècle. C'était la première fois qu'on le fouillait sérieusement. Donc c'est là qu'on a découvert une partie des métopes du temple de Zeus, et en 1829. Et ces métopes ont été offertes par le Sénat grec, tout juste inauguré, pour remercier la France d'avoir aidé la Grèce à conquérir son indépendance.
Alors ça a été c'est un acquis extraordinaire, donc c'est formidable, qui échappe aussi à l'helléninisme, donc c'est parfait. Alors ça a eu une influence sur tous les artistes, tous les poètes, et je trouvais amusant peut-être d'écouter le fameux parnassien José Maria de Heredia dans les Trophées nous parler du lion de Némée. Écoutons-le.
Depuis que le dompteur entra dans la forêt, en suivant sur le sol la formidable empreinte, seul un rugissement a trahi leur étreinte. Tout s'est tu, le soleil s'abîme et disparaît. À travers le hallier, la ronce et le guéret, le pâtre épouvanté qui s'enfuit vers Tirinthe se tourne et voit d'un œil élargi par la crainte surgir au bord des bois le grand fauve en arrêt. Il s'écrie, il a vu la terreur de Némée qui sur le ciel sanglant ouvre sa gueule armée, et la crinière éparse et les sinistres crocs. Car l'ombre grandissante avec le crépuscule fait sous l'horrible peau qui flotte autour d'Hercule, mêlant l'homme à la bête, un monstrueux héros.
Voilà notre monstrueux héros, toujours un petit peu caricatural, notre ami Heredia, mais c'est assez amusant de voir l'influence que, au fond, ces métopes ont pu avoir sur la sensibilité de toute une époque.
Au XIXe siècle, on les a beaucoup regardés. C'était une façon de se réapproprier autrement que par les vases, ce qu'on appelle le cycle d'Héraclès. Mais Heredia, je trouve, voit quand même assez juste, parce que le Lion de Némée, c'est un des premiers exploits d'Héraclès, c'est un exploit de jeunesse, et c'est ce lion à la peau intransperçable que Héraclès étouffe littéralement, qu'il étouffe et qu'il assomme, et il est obligé d'utiliser les griffes du lion et ses crocs pour pouvoir ensuite le dépecer et en faire la léontée qu'on connaît tous. C'est cette peau de lion sur la tête et dans le dos d'Héraclès qui sont son armure en quelque sorte, puisque c'est une peau intransperçable. Et dans un sens, Heredia a vu juste, enfin, c'est-à-dire qu'il relève tout ce qu'il y a d'essentiel dans ce mythe-là.
J'aime bien, je trouve ça assez amusant, même si c'est un petit peu lourd, mais j'aime bien le mélange de l'homme et de la bête et du monstrueux héros comme ça. Donc c'est assez extraordinaire. Alors comment ça s'est passé? Il nous reste quelques minutes. Il faut quand même rendre hommage à ceux qui nous rassemblent. Comment ça s'est passé cette série de ces web-séries? Parce que je vous avais déjà vu à plusieurs reprises sur des petits films parlant merveilleusement d'ailleurs de la victoire de Samothrace, que vous aviez participé à sa restauration, n'est-ce pas?
Oui, était conservateur. C'était en 2013-2014 et d'ailleurs on s'était rencontré déjà à l'occasion pour en parler.
Vous étiez venu en parler dans les regardeurs, donc c'était
exactement avec Régnier Le Ricollet. En fait, cette fois-ci, ça s'est fait un peu tout naturellement. Enfin, au Louvre, les choses se font très sérieusement, pas tout simplement, mais la personne qui s'occupe du site Scribe Accroupi, Olivier Magnan, est très curieux, donc il fait ses reportages très bien réalisés, aussi bien pour montrer une exposition toute récente que des collections permanentes, connues ou méconnues. Et apparemment, il a contacté l'équipe de communication du Louvre en disant « Ben voilà, j'ai regardé ce que faisait Ludovic Leger, j'aimerais bien travailler avec lui. » Donc on m'a transmis la demande, très formellement, et on nous a mis en contact, et ça s'est très bien passé. C'est lui qui a proposé les thèmes, donc là c'est pareil, vous voyez, au Louvre ça se fait sérieusement, donc on m'a passé les thèmes par le service de la communication, qui fait toujours très bien son travail. Très sincèrement, je les ai trouvés aussi intéressants les uns que les autres, j'avais rien à y redire.
Il y en a un nouveau donc, qui vient de sortir, me semble-t-il, sur les Trois Grâces. C'était à quelle occasion?
Ah, alors ça, je n'ai pas vu. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait à jour. C'est peut-être pour parler de l'exposition Le Corps et l'Âme. Oui,
c'est
oui.
Vous qui êtes enregistré. Et, ah bon? Oui, et vous parlez des Trois Grâces. Très bien, d'ailleurs, magnifiquement.
J'ai oublié.
Et c'est très bien. Ces Trois Grâces que je trouve vraiment extraordinaires de les voir à la source de l'exposition sur la Renaissance, la Melchior. J'espère qu'elle va rouvrir bientôt parce que c'est une exposition bouleversante. Et dès l'entrée, on a ces trois personnages. Enfin, dès l'entrée, c'est la deuxième salle, mais on a ces trois personnages inouïs qui symbolisent quoi d'ailleurs, Ludovic?
Oui, alors c'est, je revois quand est-ce que j'en ai parlé avec le scribe accroupi. Comme on a parlé pendant des heures, vous voyez, j'ai la mémoire qui flanche. Les Trois Grâces sont pratiquement à l'entrée de l'exposition Le Corps et l'Âme, mais effectivement, on espère que cette exposition qui est vraiment merveilleuse, et je le dis pas parce que je suis du Louvre, je le dis parce que le peu de temps qu'elle a été ouverte, moi je suis allé la voir 5 fois.
Ah oui, mais on a fait une émission sur l'exposition, elle a fermé le lendemain, mais oui. Je voulais inviter toute la France, tous les francophones à venir la voir parce que c'est une merveille. Et cette œuvre là,
c'est remarquable,
je dois dire,
c'est très intéressant, et cette œuvre est au début parce que c'est un thème qui a passionné les gens de la Renaissance. Donc c'est un type statuaire antique. Au Louvre, on conserve une des quelques copies romaines qui sont conservées dans le monde. Les plus célèbres sont celles de la cathédrale de Sienne et du musée du Louvre. Et les grâces représentent les bienfaits, les libéralités. Ce sont Aglaé, Euphrosinée et Thalie qui personnifient le don, celui que l'on donne, celui que l'on reçoit et celui qu'on donne en retour. Et elles se tiennent la main parce que les dons sont vertueux quand ils forment une chaîne infinie. Et c'est d'ailleurs largement décrit par Sénèque dans le De Benefice, des bienfaits, qui raconte cette histoire des grâces, d'ailleurs avec une certaine distance, hein, parce qu'il trouve ça très très intéressant, mais il reconnaît que la mythologie grecque, ça, c'est pas forcément un modèle de vertu.
Mais c'est fou en ce que cas, ça a pu, c'est très intéressant. Je voulais vous le faire entendre, mais on n'a plus le temps. Mais c'est très intéressant la façon dont Sénèque, et puis ensuite, d'ailleurs, Alberti, reprend la symbolisme de ce don et ce contre-don, et la façon dont il faut, si on fait un bienfait, comment est-ce qu'il vous est rendu? C'est une sorte de géométrie sensorielle et sentimentale, non?
Oui, c'est un très bel équilibre, et vous venez de citer une chaîne culturelle qui est très belle. La statue est inventée pendant l'Antiquité, mais le concept, les Grecs le connaissent depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Le stoïcien Chrysippe en parle, Sénèque reprend Chrysippe, Alberti dans De Pictura reprend Sénèque, et évidemment c'est tout l'humanisme du XVe siècle qui consiste à se saisir de ces textes pour se réapproprier cet héritage antique, si bien que les Trois Grâces sont à nouveau peintes grâce aux textes et aux copies romaines qu'on est en train de redécouvrir précisément dans les mêmes années. Donc ça donne de très beaux tableaux, comme celui de Francisco del Cossa, par exemple, dès 1470, on voit le motif réapparaître. Et je pense que c'est pour ça que Marc Bormand, qui est le commissaire de l'exposition Le Corps et l'Âme, et notre collègue conservateur au département des sculptures, a voulu la mettre dans les premières salles de l'exposition, parce que ce rapport à l'Antiquité, les Trois Grâces l'incarnent très bien.
J'espère que vous allez continuer votre série avec nos amis, parce que c'est passionnant, et je vous remercie Ludovic infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est passionnant de vous écouter. Je suis juste frustré que ça ne dure pas une heure de plus. Merci beaucoup Ludovic aussi. À bientôt.
Merci, au revoir.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Ludovic Laugier. Vous avez entendu sa belle voix pour sa contribution d'historien aux web-séries sur l'art grec des excellents sites web, Scribe Accroupi et Coupe Filard. Vous retrouverez les références des musiques et des livres et des sites sur notre site franceculture.fr. Une émission qui est conçue en collaboration avec Sam Boutata, à la recherche documentaire Maureen Roy et à la technique Élise Le. Réalisation évidemment Anna Holweck aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler de quelque chose de très intéressant et très curieux. Un artiste dont vous ne connaissez pas le nom, je crois. Il s'appelle François-Auguste Biard. Il a une exposition à la maison Victor Hugo. Et François-Auguste Biard, on connaît plutôt pour son épouse. Et son épouse était la maîtresse de Victor Hugo. Et pendant qu'il partait en voyage faire des tableaux inouïs, eh bien, sa maîtresse, sa femme, donc, était dans les bras du fameux Victor, ce qui l'a rendu célèbre. Et on va redécouvrir ce travail très bizarre d'artiste ethnologue, d'artiste voyageur. Et je crois que c'est très passionnant. Voilà, dans quelques instants, Jukebox par Maurice Chardot. Bon après-midi sur France Culture.